Ce matin, je voudrais aborder avec vous un deuxième volet sur le thème abordé dimanche passé, le thème de la compassion. Avez-vous un grand désir de croître, de grandir, de développer cet aspect de la vie chrétienne, la compassion, de saisir, de recevoir cette compassion du ciel, du Seigneur, pour pouvoir la transmettre? Ne trouvez-vous pas que nous sommes dans un monde où il y a plus de dureté que de compassion, où il y a plus de conséquences de la dureté et du contraire de la compassion, de son opposé, plutôt que de la bonté, la miséricorde, la compassion, etc. Eh bien, il y a quelqu'un qui peut faire la différence dans ce monde, c'est toi et moi, les chrétiens. Ceux qui sont animés de l'Esprit de Jésus peuvent faire une différence. La parole de Dieu dit ceci dans Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. Paul parle aux chrétiens. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement en Christ. Faites-vous grâce réciproquement. Soyez donc, ou devenez donc, les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenez les imitateurs de Dieu et marchez à l'exemple de Christ. C'est ce que nous voulons apprendre encore un peu plus ce matin. Nous sommes tous des apprentis, nous sommes en apprentissage. C'est pourquoi je ne voulais pas juste m'arrêter un seul message sur la compassion, mais nous voulons laisser entrer ces choses, nous voulons nous laisser imprégner par ces vérités afin qu'elles aient un impact dans nos cœurs et que nous soyons, comme j'ai l'habitude de le dire, et la parole le dit, transformés, non seulement touchés un instant, mais transformés dans la durée, pour que notre caractère, nos habitudes puissent changer et glorifier le Seigneur et toucher notre prochain. La compassion, c'est s'arrêter. La compassion, c'est écouter en s'arrêtant l'autre. Écouter l'autre et se mettre un moment à sa place afin de partager son fardeau, son besoin ou sa souffrance. C'est prendre au sérieux la souffrance de l'autre parce que compassion veut dire souffrir avec. Passion, souffrir. Compassion, souffrir avec. Personne n'aime faire ça naturellement. Nous avons, comme disent souvent les gens, nous avons assez à faire avec nous-mêmes. Et souffrir encore avec d'autres, comment puis-je faire cela? Est-ce que ça m'est vraiment demandé? Soyez bons les uns envers les autres, soyez compatissants. La parole le dit. La compassion, ce n'est pas seulement pour des personnes particulièrement sensibles, qui ont naturellement beaucoup d'empathie et qui ont tendance à être rapidement compatissants parce que sensibles. Non? La compassion est une demande divine à tous, à chacun. La compassion peut effectivement nous toucher tous, même les moins sensibles sont quand même parfois touchés aussi. Lorsque nous voyons quelque chose, lorsque nous regardons certaines images, lorsque nous voyons des films, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais pleuré dans un film ici? Verser une petite larme, ni vue ni connue. Elle peut nous envahir lorsque nous sommes confrontés à des choses qui touchent notre sensibilité profonde, qui touchent notre être intérieur. Mais, écoutez bien, la compassion, c'est avant tout un choix. C'est un choix. Je peux choisir d'être d'accord avec la parole de Dieu qui dit « Soyez compatissants » ou « Devenez compatissants ». C'est un impératif biblique qui me concerne. C'est un choix. C'est à moi de m'ouvrir et d'apprendre à devenir compatissant. Je peux choisir de me protéger, de ne pas me laisser toucher, ou alors je peux choisir de me laisser toucher et d'entreprendre quelque chose. Avez-vous remarqué en lisant la parole de Dieu que la compassion de Dieu est exprimée à bien des reprises par un pluriel, les compassions. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, psaume 119, verset 77. Daniel chapitre 9, verset 18, ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions, pluriel. Verset très connu, Lamentations 3, 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions, pluriel, ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et puis ce verset également, très connu, Romains 12. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu. Donc le singulier est insuffisant pour exprimer la grande compassion de Dieu pour l'être humain et pour sa création. Il faut un pluriel. Il faut un pluriel. Et cette compassion de Dieu se renouvelle chaque matin. Ce n'est pas seulement un caractère statique de l'attribut de Dieu, c'est quelque chose de dynamique. La vie de Dieu alimente sa compassion et à chaque être nouveau qui vient sur cette terre, il y en a des milliers chaque minute qui arrivent en plus. La compassion de Dieu a encore à donner pour ces êtres nouveaux qui arrivent et pour toute sa création. La compassion de Dieu ou les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Est-ce que ça nous réjouit cela ce matin? Ça nous fait du bien. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Oui, c'est le Père qui a compassion. Ce n'est pas seulement le Dieu tout-puissant, créateur, mais c'est le Père. Tu peux vivre la compassion de Dieu lorsque tu connais davantage le Père, ton Père céleste. La Bible, nous l'avons déjà dit la semaine passée, dit quelque chose d'intéressant, c'est que la compassion de Dieu est indépendante des actions humaines. Israël a eu droit à la compassion de Dieu, c'est marqué par les prophètes, c'est marqué à de nombreuses reprises dans les paroles prophétiques des prophètes. Et malgré tout ce qu'Israël a fait, la compassion de Dieu n'a pas été touchée pour autant. Elle est restée intacte. Il va dire, Ésaïe va dire, si les montagnes vont chanceler, si les collines vont s'ébranler, ma compassion ne sera pas touchée. Ma compassion ne chancellera pas. Quoi que tu aies fait dans ta vie, la compassion de Dieu n'a pas bougé. Son amour est égal, sa compassion pour toi sont les mêmes. Même si ta vie a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de choses que tu te reproches aujourd'hui peut-être, des choses que tu as manquées, eh bien la compassion de Dieu est là pour qu'aujourd'hui tu puisses la ressentir et qu'elle puisse te mettre en action. Car nous allons le voir, la compassion n'est pas juste un sentiment qui nous prend aux tripes, mais la compassion est quelque chose qui nous met en mouvement pour agir. Nous allons le voir dans quelques instants. La compassion, je l'ai dit au début, est demandée à chaque chrétien. La parole de Dieu ne nous informe pas seulement des qualités de la compassion, mais nous demande de l'imiter. Devenez les imitateurs de Dieu et de Christ. Puisque Dieu a compassion, vous allez me dire, mais moi je ne peux pas avoir la compassion de Dieu, je ne suis pas Dieu. Mais nous pouvons imiter et apprendre de lui. Apprendre de Christ pour avoir compassion par le Saint-Esprit qui transforme notre cœur. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtez-vous. Pour cela, il faut que je sois dévêtu de quelque chose de moi-même, de ma dureté, que je reconnaisse ce qui n'est pas la gloire de Dieu, que j'enlève ces choses, c'est mon choix, je l'ai dit, c'est mon choix. Et puis que je puisse me revêtir de ce que Dieu veut. Enfin, soyez tous animés, c'est marqué dans 1 Pierre 3,8, soyez tous animés, tous, des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Soyons tous animés. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Soyons tous animés. C'est un ordre qui vient du Seigneur. Imitons le Seigneur, imitons Jésus. Voyons maintenant la compassion de Jésus. Nous l'avons évoqué la semaine passée en disant qu'au début du ministère de Jésus, lorsqu'il se présente à Nazareth, il va se présenter pour son premier sermon, son premier message qui va être donné dans son village à Nazareth. Et il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé, il m'a donné l'onction pour guérir les cœurs brisés, ouvrir les yeux des aveugles, ouvrir les prisons, réparer les cœurs brisés et renvoyer libres les opprimés. Et pour cela, il faut l'onction du Saint-Esprit, non seulement sa puissance, mais aussi sa compassion. Si vous voulez aborder un cœur brisé, vous devez avoir de la compassion. Si vous voulez parler avec des aveugles, des gens captifs, des pauvres, des opprimés, il vous faut de la compassion. Cette semaine, nous allons mettre l'accent sur le contact avec des personnes pour leur annoncer en toute simplicité notre témoignage. Et pour cela, il nous faut la composante compassion. Compassion. Nous ne venons pas pour les instruire de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Nous ne venons pas pour raconter simplement notre histoire. Nous voulons que le cœur soit participant à ce que nous faisons, que la compassion puisse être quelque chose que les gens perçoivent. Ils ne vont peut-être pas retenir ce que nous allons dire, mais ils vont dire, mais c'est quelqu'un qui n'a pas voulu imposer, entre guillemets, sa religion. Il n'a pas voulu mettre son grappin sur moi pour m'inviter dans son église. Mais il avait quelque chose qu'on ne trouve pas souvent. Il avait de l'amour et de la compassion. Parfois, il ne faut rien dire quand on est compatissant. Il faut juste être présent. Le mot compassion est intéressant parce que le mot grec, c'est splagnizomai, qui veut dire, en fait, splagna, c'est les entrailles, c'est les tripes. Et ce mot est utilisé pour Jésus. Ou alors, il est aussi utilisé dans les paraboles que Jésus a racontées. Comme l'histoire du fils prodigue, lorsque le père voit le fils revenir, ce fils qu'il a déshonoré, qui a tout gâché, qui a raté sa vie, lorsqu'il revient, la parabole nous dit, le texte nous dit que le père était ému de compassion au point qu'il va courir vers lui. Cette compassion est justement de nature divine. Elle est surnaturelle. Elle est surnaturelle. C'est cette compassion qui va saisir Jésus dans ses, non pas dans le domaine des sentiments, qui est plutôt représenté par le cœur. Bien sûr, le cœur, c'est aussi la volonté, c'est les choix, c'est les sentiments, c'est notre intelligence, tout ça, c'est exprimé par le cœur pour l'hébreu. Mais splagna, c'est les tripes, c'est notre être profond. C'est là que se trouve la source de l'amour. La compassion de Jésus, c'est accepter de se laisser toucher, se rendre vulnérable. J'aimerais répéter que la compassion ne fait pas de nous des gens avec une sensibilité extrême qui gomme tout discernement. La compassion ne gomme pas le discernement, ni la sagesse. Elle ne gomme pas ces choses-là, ni le bon sens, parce que nous restons à l'écoute du Seigneur. Il y a des gens qui voudraient profiter de la compassion des chrétiens, qui voudraient l'exploiter. Et des gens peut-être un peu parfois crédules et pas très avertis se laissent entraîner. Alors, bien sûr, Dieu seul est juge de ces choses. On se fait avoir. Même les plus avertis parmi nous se sont fait avoir peut-être. Jésus a été exploité. Il a nourri des foules, des milliers de personnes. Est-ce que ces milliers de personnes ont cru en lui? Est-ce qu'ils étaient là pour le défendre lorsqu'il a été crucifié? Ils n'étaient plus là. Il a été exploité aussi. On a profité de lui, il le savait très bien. Mais néanmoins, nous devons être avertis et avoir le discernement et la sagesse, car le Seigneur nous donne la chose avec la compassion. La compassion de Jésus est toujours tournée vers les autres. Elle n'est pas tournée vers lui-même. Regardez, lorsque Jésus porte sa croix, lorsqu'il monte vers Golgotha, eh bien, les femmes sont au bord de la route et pleurent sur lui. Il est dit que Jésus se tourne vers elles, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. » Jésus refuse qu'on le prenne en pitié. Jésus ne se prendra pas en pitié. À la croix, il ne se prendra pas en pitié. Il va avoir compassion de sa mère. Il va avoir compassion de ceux qui le crucifient parce qu'il va dire, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce n'est pas un repli sur soi. Il y a une composante de la dépression qui est très connue. C'est que la dépression, elle nous replie sur nous-mêmes. C'est qu'on se pleure sur son propre sort et sur sa propre personne. On devient égocentrique par cette maladie. La pitié de soi, ce n'est pas la compassion. Ce n'est pas la compassion. La compassion de Jésus est tournée vers les autres. Vers les autres. Maintenant, notez une chose. Nous avons parlé de quelques faits où l'Évangile nous décrit la compassion de Jésus. Lorsqu'il est en contact avec l'aveugle, par exemple, il est dit que Jésus, ayant vu l'aveugle, c'est dans Matthieu chapitre 20, 29 et suivant, Jésus était ému de compassion en voyant ces aveugles, et puis il est dit que Jésus toucha leurs yeux. Dans Luc chapitre 7, lorsqu'il y a ce cortège funèbre qui arrive avec ce jeune homme qui est mort, fils unique d'une veuve, Jésus va être ému de compassion, il va aussi toucher. Va toucher ce cercueil et il va ressusciter ce mort. Jésus donc est ému, il s'approche du besoin Il s'approche du malade, il s'approche de la souffrance, il touche la souffrance. C'est là que j'ai besoin de faire un choix. Est-ce que je suis d'accord de toucher à mon tour? Jésus n'est pas resté à distance. Il a approché la souffrance volontairement pour la toucher de sa main. Donc ma souffrance, ce n'est pas quelque chose avant tout d'émotionnel. C'est un acte précis, un acte pratique. Je peux être touché dans l'émotionnel facilement, comme je l'ai dit, par des images, par un film, par quelque chose. Mais un choix pour me lever et faire quelque chose, c'est tout différent. Je peux commencer quelque part et faire comme la parole de Dieu dit, porter les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est quand je prends une part du fardeau de l'autre. C'est quand je prends part, quand je souffre avec, quand je pleure avec, quand je m'arrête pour prendre au sérieux quelque chose qui est la souffrance de l'autre, alors je suis compatissant dans l'acte. Nous avons dit, la souffrance peut faire de nous des êtres solitaires. La souffrance nous rend seuls. On a l'impression que personne ne peut nous comprendre, ni personne ne peut nous rejoindre dans ce qu'on a vécu parce qu'on est tous différents. Mais la compassion fait que je suis accompagné par quelqu'un qui cherche à me comprendre, qui me rejoint. Je ne suis plus seul, je suis en communion, en communauté. Récemment, j'ai lu un article sur une équipe de missionnaires qui travaille dans un pays pauvre et qui a beaucoup de résultats dans la guérison des malades. Et ils ont tellement de résultats qu'une équipe de médecins est allée trouver ces lieux, des médecins non chrétiens. Ils ont cherché à vérifier si c'est vraiment des vraies guérisons ou si c'est juste quelque chose qui est soit faux, soit passager. Et ils ont dit, en vérifiant, que dans un grand nombre de situations, il y a eu des guérisons et des améliorations très nettes. Et ils ont remarqué que la proximité avec le malade, entre le thérapeute, ou on va dire le chrétien qui prie, ou le ministère qui prie, la proximité, l'imposition des mains, prendre des pauvres dans les bras, les toucher, a été une constante qui a été remarquée dans ce ministère. Et les gens étaient guéris parce que dans cet acte de foi, mais aussi de compassion, la puissance de Dieu a donné la guérison. La puissance de Dieu a coulé au travers d'un cœur qui était rempli de foi et de compassion. Et ce sont les médecins non convertis qui ont remarqué qu'il y avait ce contact. La compassion sans contact n'est pas de la compassion. C'est une bonne intention, c'est de la sensibilité, oui, mais ce n'est pas la compassion. Écoutez ce qu'un chef de pays africain musulman a dit, enfin qui est en grande partie musulman, mais c'est encore un État pas strictement islamique. Il dit ceci: « Je ne veux pas que notre pays devienne un État islamique, car les chrétiens présents dans notre pays nourrissent, soignent et enseignent les chrétiens et les non-chrétiens. » Combien de missions chrétiennes se trouvent dans des zones à majorité musulmane pour implanter quoi? Des églises? Non. Des écoles? Pour inviter qui? Les enfants des familles chrétiennes? Non. Les enfants des musulmans. Pour qu'ils puissent être environnés et enseignés par des profs chrétiens dans une atmosphère chrétienne. Et les musulmans sont tous très reconnaissants. Alors que bon nombre de ces écoles dans le sud du Sahara ont été fermés à cause de la menace de violence, etc. Eh bien, de nombreuses familles musulmanes ont pleuré la fermeture de ces écoles parce que leurs enfants étaient bien soignés, bien nourris par la charité, la compassion des chrétiens. Quelqu'un d'autre a dit, les ONG chrétiennes sont partout. Parfois, ce sont ces chrétiens qui restent le plus longtemps dans les pays dangereux, et à cause de leur amour et la compassion pour des autres, ils risquent leur vie. Ils offrent les soins d'urgence, les médicaments, l'eau potable, et donnent des outils de travail. Ce sont les ONG chrétiennes. Frères et sœurs, c'est ça, la charité chrétienne, c'est ça la compassion chrétienne. Nous sommes présents dans les actes, nous touchons quelque chose. Frères et sœurs, nous pouvons tous toucher quelque chose. Ou quelqu'un, sans faire de grands discours, mais pour manifester comme Jésus qui touchait les aveugles, qui touchait cette personne endeuillée, ce mort, il a touché, vous voyez dans l'évangile, pratiquement toujours que Jésus touche en imposant les mains. Il va prendre cet aveugle, il va carrément toucher avec sa salive, sa propre salive, il va toucher tout le temps. Alors il faut être dirigé par le Saint-Esprit, bien sûr. Il ne faut pas être envahissant. Il ne faut pas mettre les gens mal à l'aise. Non, il faut la sagesse, du tact. Il faut être rempli du Saint-Esprit et avancer. Même si on fait des erreurs, il faut avancer dans cette bonne attitude d'être les imitateurs de Christ et les imitateurs de Dieu. Soyez tous animés de la compassion, nous dit le texte. Allons un peu plus loin. Il est dit quelque chose d'intéressant. Regardez avec moi dans Marc chapitre 9, verset 22. Marc chapitre 9, verset 22. Nous allons voir jusqu'où la compassion va. Marc 9, 22. Jésus demande, prenons verset 20. L'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il. » Souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le Père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit mûr, muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, n'y entre plus. » Jésus, écoutez, Jésus a compassion des gens qui sont habités par des puissances impures, par des démons. Est-ce que naturellement nous avons compassion pour des gens qui sont terribles, terrifiants, menaçants, dangereux ? Il faut une compassion divine, mes frères et sœurs. Je l'ai dit, cette compassion en imitant Dieu et en imitant Christ, c'est recevoir quelque chose du ciel qui n'est pas naturellement en nous. Et pour avoir compassion de quelqu'un qui est habité par des esprits mauvais, il faut une compassion, il ne faut pas seulement de l'autorité. Il faut aussi une compassion de Dieu. Il faut aussi une compassion de Dieu. Lorsque Jésus a vu cet enfant, lorsqu'il a vu à quel point le diable ruinait, torturait cet enfant, il a été animé, bien sûr, d'une colère contre le démon, mais d'une compassion pour cette famille. La compassion divine, c'est faire la part des choses, avoir une colère contre l'ennemi, mais avoir compassion de la personne qui est, malgré elle, ou par ses propres péchés, dans la griffe de l'adversaire. Il faut la compassion, Jésus l'avait. Si David Wilkerson n'avait pas eu compassion de ce dangereux chef de gang qui était Nicky Cruz, il ne serait jamais allé vers lui. Nicky Cruz qui, à son tour, a amené à la fois des millions de gens, des millions, c'est peu dire, c'est des dizaines de millions de gens. Parce qu'au départ, malgré la menace que représentait cet homme, c'est la compassion de ce David Wilkerson lorsqu'il a vu défiler ces jeunes trafiquants, ces jeunes dans les gangs à New York, lorsqu'il les a vus dans le reportage télévisé, il a été ému de compassion. Ému de compassion parce qu'il a vu quelque chose. Le Saint-Esprit lui a donné une compassion. Ensuite, il est passé à l'action. Il est passé à l'acte, il est allé les trouver. Il est allé les trouver pour leur annoncer l'Évangile, et là, le Saint-Esprit a fait le reste. Quelle est notre réaction face à ceux qui sont manipulés par les forces du mal, la colère, la violence, la haine? Nous nous en éloignons très souvent, nous faisons un détour, mais la compassion va jusque-là, dirigée par le Saint-Esprit, je précise, pour avoir compassion, pour avoir compassion. Ces gens-là n'ont pas de compassion, ces gens-là ne reçoivent pas la compassion, mais la compassion et l'autorité fait la différence. J'ai été extrêmement touché lorsqu'il y a une quinzaine d'années, j'étais au Burkina Faso, et on m'a amené dans un endroit complètement isolé où il y avait une église. Et à côté de l'église, il y avait un autre bâtiment où étaient enchaînés des démoniaques par des chaînes aux pieds, attachées et scellées, bétonnées dans le sol. Et de case en case, il y avait ces gens. Et ils avaient une casserole avec de la nourriture. Et dans cette allée, je vous assure, j'ai suivi le pasteur de près. J'étais comme ça, dans mon allée. Il y avait des gens à droite, à gauche. Je ne m'approchais ni à droite ni à gauche, parce qu'ils étaient dangereux. En sortant, on a vu de ces démoniaques attachés aux arbres avec des chaînes en fer. Et ce pasteur et son équipe avaient un ministère pour eux de prière, de compassion, de foi et d'autorité. Et le suivant, il me disait, priez simplement pour cet homme qui ne bougeait pas. Il dit, ah, celui-là, il a encore des démons. Il prie pour lui, il n'est pas libre. Celui-là, il est en voie de libération. Et pour chacun, il disait souvent quelque chose. Et qui a ce ministère? Ce ministère, même dans un pays où il y a beaucoup, beaucoup d'églises, était particulièrement reconnu. Les gens venaient depuis l'étranger pour être délivrés par ce ministère de libération, la compassion. La compassion surnaturelle nous est donnée pour des gens qui sont habités par des puissances démoniaques. Frères et sœurs, il nous faut quelque chose de Dieu. Est-ce que Jésus va arriver devant Jérusalem, cette Jérusalem qui va le crucifier, où les gens sont religieux, le rejettent, et il va pleurer de compassion sur Jérusalem? Ça, c'est la compassion du Seigneur. Lorsque Jésus est mort à la croix, c'est par compassion qu'il est resté. C'est par amour, par compassion. On raconte une histoire qui remonte à l'Antiquité. C'est l'histoire qui s'est passée sur un marché d'esclaves. Il y avait à l'époque beaucoup d'esclaves dans l'Empire romain. Et les esclaves étaient sur une estrade au centre, dans les villages, dans les villes. Et ils étaient là et on pouvait venir, les maîtres d'esclaves pouvaient venir pour les acheter. Et ils misaient leur somme d'argent pour un tel. Et ils payaient à la caisse et puis ils emmenaient l'esclave pour être, comme vous le savez, une simple force de travail. Ils n'avaient ni droit ni privilège, ils étaient une force de travail. Et dans ce marché d'esclaves, les gens partaient les uns après les autres. Ils ont été achetés par, depuis des enfants, des hommes, des femmes, achetés par des maîtres d'esclaves. Et voilà qu'il ne restait plus qu'une personne sur l'estrade. Elle était là, toute perdue, tremblotante. C'était une jeune fille qui était particulièrement belle. Et les enchères vont monter. Tout le monde la voulait. Les enchères montent et finalement, un dernier prix va être donné. Et juste au moment où le dernier prix va arrêter les enchères, il y a quelqu'un en bordure de cette foule qui va crier très fort et qui va miser le double. Tout le monde se retourne. Cette personne s'avance toute vitesse, paye et emmène cette jeune fille qui se débat. Il l'emmène dans les rues de la ville. Il l'amène dans un bâtiment administratif. Il va l'amener au rez-de-chaussée. Il va dire, tu bouges pas, tu restes là. Et ensuite, lui va monter un étage. Il va rester un certain temps dans ce bureau administratif. Il va revenir au bout d'un certain temps. Il va retrouver cette jeune esclave qui sait très bien que si elle s'enfuit, elle sera tuée par n'importe qui puisqu'il n'avait aucun droit. Et il va lui donner, cet homme va montrer un papier officiel. Et il va lui dire, c'est ton papier de libération. À partir de maintenant, tu es libre. J'ai acheté pour toi un document de liberté. Je t'ai racheté. Il avait payé pour elle pour l'avoir, hors du marché d'esclaves, et puis il va payer pour sa liberté, un document officiel qu'il ne fallait pas perdre. Cette jeune fille va cracher sur lui, pourquoi tu fais ça? Je ne veux pas. Et lorsqu'il va entendre ces mots, pourquoi tu fais cela? Cet homme va faire un moment de silence, il va dire, lorsque je t'ai vu sur l'estrade pour être vendu, où les gens voulaient tous t'avoir, j'ai eu compassion de toi. J'ai eu compassion de toi. Et il a sorti des sommes d'argent importantes pour qu'elle soit libre, qu'elle soit elle-même libre. Et cette jeune esclave, en entendant cela, elle fait aussi un moment de silence et elle tombe aux genoux de cet homme, lui en serre ses pieds et il dit, je ne veux plus jamais te quitter. Jésus nous a rachetés hors du marché d'esclaves. Ce marché d'esclaves, comme dit l'apôtre Paul, c'est le péché qui a fait de nous des prisonniers. Nous sommes aussi vendus au péché, vendus à plus fort que nous, vendus au diable, vendus au royaume des ténèbres. Et il est venu, il a eu compassion de nous, il est venu nous racheter. Il nous a donné par sa croix et son œuvre parfaite un certificat de rachat. Nous sommes libres. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. C'est pourquoi la compassion de Christ doit jamais être oublié par le chrétien. Il a eu compassion de nous. Il a eu compassion de nous. Sa compassion a été pour nous toucher, pour nous racheter, pour donner sa vie pour nous. Frères et sœurs, devenez les imitateurs de Dieu et les exemples, à l'exemple de Christ qui s'est donné, nous dit le texte. Nous devons devenir des gens compatissants parce que Christ a eu compassion de chacun de nous. Je termine par un dernier exemple. Un dernier exemple que je trouve dans Marc chapitre 1, verset 40. Je vais prendre un peu de temps pour cela, pour ne pas être trop long. Au début des évangiles, la Bible nous dit que Jésus parcourait les villes et les villages et qu'il guérissait les malades. Et puis nous arrivons au chapitre 1 et au verset 40, le texte suivant. « Un lépreux vint à lui, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit sa main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. La Bible nous dit que Jésus guérissait les malades et qu'il purifiait les lépreux. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 10, il est dit, « Les disciples de Jésus reçoivent l'ordre, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons, ressuscitez les morts. » Mais la lèpre n'est-elle pas une maladie ? Non, elle est mise à part des autres maladies. Parce que la lèpre représente quelque chose de particulier. Dans l'Ancien Testament, la lèpre était considérée comme étant quelque chose de gravissime. Même la lèpre pouvait être dans les bâtiments, dans les murs. Et il fallait gratter tout ça, il fallait observer s'il n'y avait pas de la lèpre quelque part. Et il y avait toute une procédure rituelle pour la purification de cette maison, de même que pour la purification des gens. Si quelqu'un était guéri, il devait aller se montrer, faire un test médical auprès des sacrificateurs, etc., pour constater la guérison. La lèpre, nous dit le texte biblique, c'est l'image du péché. Comme la lèpre, qu'est-ce qui se passait ? Un lépreux, quand il y avait des taches, il avait bien sûr d'abord la crainte. Qu'est-ce que c'est ? Quand, peut-être en cercle très réduit, on observe que c'est manifestement une lèpre, il va d'abord cacher tout ce qu'il peut cacher. Chacun de nous l'aurait fait. Mais lorsque la lèpre apparaissait sur les mains et dans le visage, il ne pouvait plus cacher. On constatait la lèpre, la personne était isolée de la société. Père de famille, mère de famille, un enfant, qui que ce soit, elle devait être isolée à part dans la zone des lépreux. Plus de contact. La Bible dit en plus qu'elle était rituellement impure, donc elle ne pouvait pas s'approcher de Dieu comme les autres. Il y avait une impureté sur elle qui persistait. Coupure de Dieu, coupure avec la société, coupure avec les bien-aimés. Elle était chargée de tout ça. Et les gens pensaient que c'était une malédiction qui venait de Dieu parce qu'elle avait fait quelque chose de particulier. Donc elle était chargée d'une culpabilité inexplicable, une malédiction. Et tout le monde savait que seul Dieu pouvait remuer cette lèpre. C'était incurable par la médecine. Mais Dieu seul pouvait par un miracle libérer le lépreux et purifier. C'est l'image du péché. C'est l'image du péché parce que le péché nous coupe de Dieu, nous coupe dans nos relations, nous rend impurs, nous charge de culpabilité. Comme la lèpre défigurait la beauté du visage, le péché défigure la vie, brise les relations, engendre la souffrance, fait le mal autour de nous et en nous-mêmes, bien sûr. Et quand nous voyons ce lépreux s'approcher, qui sait très bien que seul Dieu peut quelque chose pour lui, il va reconnaître en Jésus quelqu'un qui définitivement vient de Dieu, qui peut faire quelque chose, et Jésus va s'approcher de cet homme qui est mis à part et qu'on ne peut pas toucher. Il est même dit que, dans Lévitique, il est dit qu'il devait crier « impur, impur » pour ne pas qu'on s'approche, qu'on le touche. Mais Jésus va s'approcher, le toucher. Il va aller contre la loi de Moïse. Il va s'approcher. Et qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs ? C'est que normalement, l'impureté du lépreux va toucher Jésus, donc il sera impur. Mais en réalité, c'est le contraire qui va se passer. La pureté de Jésus va briser l'impureté de cet homme. La pureté va rentrer en lui. Ce n'est pas l'impureté qui va toucher, comme la loi de Moïse le prescrit, mais c'est la puissance de la pureté de Jésus qui va rentrer en lui. Alléluia ! Et c'est ça que Jésus veut faire aujourd'hui, car ce lépreux représente la maladie physique, la maladie morale et la maladie spirituelle. En une seule personne, en un seul texte, vous avez tous les maux possibles réunis. Jésus s'approche, pose sa main et le libère, le rend pur et l'intègre dans la société. Alléluia. La guérison du lépreux est une image pour chacun de nous ce matin. Tu peux t'approcher pour recevoir cette pureté. Et je raccorde juste l'image que j'ai reçue au début du culte, qui n'était pas du tout en... Je pense juste à ça maintenant, où les gens reçoivent un vêtement propre de Jésus. Tu reçois ce vêtement. Voyez-vous, ce lépreux devait montrer à Dieu sa lèpre. Il devait montrer, voilà, je suis lépreux. Tant que tu caches les choses, tu ne peux pas recevoir la pureté. Mais il faut le montrer au Seigneur. Il faut reconnaître. Alors le Seigneur va intervenir. Alors la compassion est à l'œuvre. Je termine ce message. La compassion puisse-t-elle faire du chemin dans notre cœur? Ne cherchons pas des excuses. Présentons nos cœurs, nos vies. Disons, Seigneur, il faut plus d'amour dans mon cœur. Je suis froid, je suis dur. Mon cœur est encore resté un cœur de pierre. Mais par la nouvelle naissance, tu reçois un cœur de chair. Tu peux avoir compassion. Parce qu'il y a des gens autour de toi, par milliers, qui ont besoin que quelqu'un leur montre de la compassion. Ne sois plus égocentrique, mais Dieu va te conduire vers des quantités de gens qui ont besoin de ta compassion. Est-ce que la compassion de Dieu peut-elle circuler par toi? Est-ce que les tuyaux sont débouchés? Est-ce que ça peut couler librement au travers de toi parce que tu as un cœur ouvert?